7h en temps universel, 9h à Paris et à Berlin.
RFI Matin.
Le journal international avec vous, Martin Gaze, à la une en Allemagne. L'extrême droite qui s'y voit déjà au pouvoir, portée par des sondages très positifs.
Et qui donne l'AfD gagnante avec plus de 20 points d'avance en Saxe-Anhalt, région de l'Est de l'Allemagne. Jamais depuis l'après-guerre, l'extrême droite n'a dirigé une région dans le pays. Mais la formation anti-migrant capitalise sur l'impopularité du gouvernement conservateur de Friedrich Merz et sur le désenchantement des citoyens allemands, vous l'entendrez. Au Népal, il reste encore de l'espoir de retrouver des survivants, même si 10 jours après les crues catastrophiques qu'a connu le pays, les bilans humains comme économiques continuent de s'alourdir. Vous entendrez ensuite le soulagement des habitants de l'Éré, ville malienne de la région de Tombouctou, où le blocus du Jnim a été levé cette semaine. Nous serons aussi dans ce journal en Bosnie, à la veille des funérailles de Ranko Mladic, surnommé le boucher des Balkans. Il est toujours considéré comme un héros dans son village natal. Et puis enfin, c'est un procès sordide qui a tenu les États-Unis en haleine, celui d'un triple infanticide. Impossible pour le tribunal du Massachusetts de trancher sur l'état psychiatrique et donc sur la culpabilité de la mère.
Défilé contre défilé, deux visions de l'Allemagne s'opposaient dans les rues de Magdebourg dans l'est du pays.
Avant ce scrutin régional très scruté demain en Saxe-Anhalt, d'un côté ses drapeaux arc-en-ciel et ses slogans en faveur de la démocratie. Ça, c'était au cœur du rassemblement organisé par Die Linke, le parti de gauche crédité de 15% des intentions de vote. De l'autre, celui de l'AfD, la formation d'extrême droite donnée largement gagnante dans cette région d'ex-Allemagne de l'Est. Ce serait une première depuis 1945. L'AfD, parti anti-migrant, ouvertement xénophobe, qui compte capitaliser sur le désenchantement des électeurs allemands. Reportage à Magdebourg, au cœur du dernier meeting de l'AfD, avec notre envoyé spécial Muriel Paradon.
Tout est possible, répète à l'envi Ulrich Siegmund, le chef de file de l'AfD en Saxe-Anhalt. C'est même son slogan de campagne. Ses sympathisants, qui sont un peu monsieur et madame tout le monde, veulent y croire, comme ce quarantenaire.
Notre économie se casse la figure. Les prix de l'énergie sont élevés, le prix des carburants aussi. Il y a beaucoup trop d'impôts. Ulrich Siegmund a dit qu'on allait commencer à changer les choses ici, avant de conquérir toute l'Allemagne.
Et qu'importe si le programme économique de l'AfD reste flou. Il y a en tout cas un thème qui rassemble les sympathisants, toutes générations confondues, c'est la lutte contre l'immigration. Lucas a 22 ans.
Je trouve que c'est bien que l'AfD veuille lancer une campagne massive d'expulsion. On ne doit pas renvoyer les étrangers qui travaillent, mais ceux qui font des conneries.
Des étrangers accusés de tous les maux, d'être des criminels, mais aussi de toucher trop d'aide, peste cette retraitée.
Si les étrangers quittaient tout ce pays, nos retraites s'amélioreraient parce qu'on les finance avec notre argent. Ça ne peut plus durer. On n'a pas travaillé toute notre vie pour qu'à la fin, le peuple allemand soit oublié.
Et c'est pareil pour le soutien à l'Ukraine, que le parti d'extrême droite veut stopper. Une idée qui séduit Wieland, qui est ingénieur.
Pour la guerre en Ukraine, beaucoup d'argent est dépensé. C'est de l'argent de mes impôts qui pourrait être utilisé autrement.
Dans cette région d'ex-Allemagne de l'Est, où les habitants se sentent particulièrement abandonnés, les recettes de l'extrême droite font le plein. Muriel Paradon, Magdebourg, RFI.
Et pour leur l'AfD compte 23 députés régionaux, compte 40 pour la CDU. L'AfD qui espère doubler son score demain, une élection que nous suivrons tout le week-end sur RFI.
Dans l'actualité également, une nouvelle attaque russe cette nuit sur le territoire ukrainien, et ce, malgré l'appel de Volodymyr Zelensky.
Le président ukrainien qui avait proposé à la Russie un arrêt temporaire des frappes de chaque côté. Le temps de la double visite des émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff à Moscou aujourd'hui et à Kiev demain. Une proposition balayée par les faits, par cette frappe russe nocturne dans le centre de l'Ukraine qui a fait au moins 4 morts. Hier, la Russie avait visé un quartier pourtant sous très haute sécurité à Kiev. Une escalade sérieuse selon les autorités ukrainiennes. 12 personnes ont été blessées.
Les secours toujours mobilisés au Népal dans l'espoir toujours de retrouver des rescapés.
Un espoir ravivé hier par la découverte de 2 ouvriers encore vivants après avoir passé 9 jours dans des tunnels souterrains bloqués par les crues dramatiques du 26 août provoquées par la chute d'un immense glacier himalayen. Le bilan est aujourd'hui de 1325 morts et de 5600 disparus, dont 900 ouvriers des sites hydroélectriques. Le coût économique de la catastrophe s'annonce lui aussi très lourd, Nathanaël Vitran.
Rien qu'au Népal, le chef de l'autorité chargée de la gestion des catastrophes estime le coût des dégâts causés aux infrastructures à plus de 380 milliards de roupies népalaises, soit 2 milliards 560 millions de dollars. 20 000 habitations auront besoin d'être reconstruites, dont 7 500 complètement détruites par le mur de glace et de boue qui s'est abattu sur le pays. Les inondations ont aussi durement touché plus d'une dizaine d'installations hydroélectriques du centre du pays. Les assureurs devraient être fortement sollicités. Un haut responsable estime les pertes pour les différentes compagnies à plus de 130 millions de dollars. Mais l'urgence reste avant tout d'apporter de l'aide aux sinistrés. Les Nations Unies estiment que 84 000 personnes ont besoin d'une assistance d'urgence. L'ONU chiffre ses besoins à près de 50 millions de dollars au Népal. De leur côté, les autorités chinoises n'ont fait aucune estimation à ce stade sur le coût de la catastrophe au Tibet, une région toujours particulièrement sous le contrôle de Pékin.
Nathanaël Vitran, les Nations Unies ont lancé hier un appel urgent dans le but de récolter 50 millions de dollars destinés à venir en aide aux quelques 84 000 personnes sinistrées au Népal.
Au Mali, après la levée du blocus, a léré le soulagement des habitants.
Dans cette ville de la région de Tombouctou, qui subissait depuis 10 mois un blocus imposé par le JNIM lié à Al-Qaïda, les djihadistes interdisaient toute entrée ou toute sortie de la ville. Seuls les véhicules militaires parvenaient à passer. Et en début de semaine, un accord a finalement été conclu entre le groupe djihadiste et l'armée et l'administration malienne sous l'impulsion des chefs traditionnels et communautaires de l'Éré. Depuis mardi matin, précisément, les djihadistes laissent à nouveau enfin passer les véhicules civils. La rédaction en Mandakan et Fulful D de RFI a recueilli les témoignages d'un habitant de l'Éré qui s'exprime de manière anonyme.
Nous sommes très contents. La levée de ce blocus, c'est comme si on nous avait déchargé d'un immense fardeau. La population, les hommes, les femmes, les jeunes, nous sommes tous heureux. Parce que ça n'a pas été facile. Il y a eu vraiment des difficultés. Aujourd'hui, on peut dire Dieu merci. Ces derniers jours, plusieurs voitures ont pu entrer et sortir de l'Éré. Nous, les habitants, nous souffrons, vraiment nous souffrons énormément, surtout à cause du manque de nourriture. Nous avons besoin d'aliments, de médicaments et nous avons aussi des besoins en termes d'éducation. Il y a des jeunes ici qui sont sans emploi. Nous avons besoin d'aide pour tout cela. C'est le blocus qui a créé toutes ces difficultés. Le commerce et les autres activités, tout était à l'arrêt.
L'actualité africaine également marquée par cet anniversaire en Guinée il y a 5 ans, jour pour jour, le 5 septembre 2021. Les militaires et des éléments des forces spéciales renversaient le président Alpha Condé. À la tête des putschistes, Mamadi Doumbouya promettait de rendre le pouvoir aux civils. 5 ans après, le général est devenu président. Avec quel bilan? Article complet à retrouver en une de notre site RFI.fr.
Il est 9h07 à Belgrade, où celui que l'on surnommait le boucher des Balkans sera enterré avec les honneurs militaires demain.
Une glorification dénoncée par Bruxelles avant les funérailles de Radko Mladic, mort à l'âge de 84 ans, en détention dans une prison de l'ONU aux Pays-Bas, condamné à la perpétuité pour génocide et crime contre l'humanité. Un criminel de guerre dont le nom restera jamais lié au massacre de Srebrenica, où 8000 hommes et adolescents musulmans ont été tués en juillet 1995, en pleine guerre de Bosnie. La pire tuerie commise sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Une figure qui divise encore aujourd'hui, bourreau pour les Bosniaques, héros encore pour de nombreux Serbes, notamment dans son village natal, Kalinovic, situé au cœur du territoire de la minorité serbe de Bosnie, où notre correspondant Louis Seyé s'est rendu au reportage.
C'est de la terre qu'on a récupérée dans le jardin familial de Radko Mladic et qu'on va lui lancer sur sa tombe à Belgrade.
À plus de 75 ans, Giorgio et Boro ont fait plusieurs heures de route pour venir se recueillir devant la maison de naissance de Radko Mladic. Ils repartiront avec cette poignée de terre destinée à accompagner le cercueil de l'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie.
Après sa mort, j'ai vu que le monde entier le présentait comme un criminel, comme le seul responsable de la guerre. C'est une immense injustice, toute cette injustice subie par notre général, alors que le monde entier s'est soulevé pour détruire les Serbes.
À 3 km de là, à l'entrée de la petite ville de Kalinovic, Sladjana, 44 ans, fait poser son fils de 11 ans devant un portrait de Radko Mladic au garde à vous. Cette Serbe installée en Autriche conteste elle aussi le verdict de la justice internationale.
On s'est arrêté pour prendre une photo et pour rendre hommage au général. Je sais que c'était un homme juste qui voulait sauver les femmes et les enfants. Il n'a rien à voir voir avec ce qu'on vit de lui en Occident.
30 ans après la guerre, les condamnations de la justice internationale n'ont pas suffi à effacer le prestige de Ratko Mladic auprès d'une partie des Serbes de la région. Louis Seyé, de retour de Kalinovic, RFI.
Le phénomène El Niño, Martin, réchauffe comme jamais les eaux du Pacifique et il provoque aussi des incendies.
Une conséquence indirecte de ce phénomène météorologique qui n'a jamais été aussi fort, El Niño qui entraîne...
Je veux du rhum, pas des chrysanthèmes. Au générique de fin de cette mise en scène, je maudis le monde sans attendre qu'on m'aime. Vais où mes propres mélodies m'emmènent. Et je vis sans chaîne et j'écris sans chaîne. Mon mépris a pris, je le crie quand même. D'où mes rimes proviennent, sache que nos peines, même les plus anciennes, font des prisons pleines.
Parfois c'est vital, on peut pas toujours éviter de confronter ses opinions et ses idées. Même si ça blesse au fond, il y a encore plus profond, encore des sous-sols quand on pense toucher le fond. Des tas de choses auxquelles on n'a pas encore songé. Laissé pour mort, il finira par se venger. Il n'y a pas de notice, des gens prêts et d'autres factices. Un jour il réclame son dû, c'est avec le diable du pactise. On prend le train en marche, les choses comme elles viennent. Trop de parasites pour se laisser charmer par le chant des sirènes.
On avance mais ne suit personne, les mêmes sur les paliers, les podiums.
On prend le train en marche, les choses comme elles viennent. Trop de parasites pour se laisser charmer par le chant des sirènes.
On avance mais ne suit personne, les mêmes sur les paliers, les podiums.
Souvent je me dis que j'ai trop de haine pour un seul scala. Je suis montré du doigt quand je me balade par-ci par-là. Les regards me soupçonnent, pourtant je connais personne. Qu'on me foute la paix, c'est en particulier ce que j'affectionne. Je prends le train en marche, là c'est d'attendre à quai. Qu'on veuille bien m'utiliser comme un laquais. Qu'on pense enfin à m'intégrer dans le système, je sais. Je n'ai jamais mieux servi que par soi-même.
Et malgré les sales plans, je recherche les talbins. Je remplis les calepins et je fuis les parfums. Et puis je tiens tout le temps des propos insultants, expliquant comment je l'ai et à quel point. J'en ai connu tellement, des moments déroutants, que je vis dans l'instant, que plus rien ne m'atteint. Si personne ne m'entend, je ne vais pas pour autant aller le dos voûté à la face des pantins.
On prend le train en marche, les choses comme elles viennent. Trop de parasites pour se laisser charmer par le chant des sirènes.
On avance mais ne suit personne, les mêmes sur les paliers, les podiums.
On prend le train en marche, les choses comme elles viennent. Trop de parasites pour se laisser charmer par le chant des sirènes.
On avance mais ne suit personne, les mêmes sur les paliers, les podiums.
On tente notre chance et on joue carte sur table. Pendant que tout s'écroule, on cherche encore le Graal. En maudissant la guigne, quand le doute nous gagne, je pense que la musique rend malade autant qu'elle nous soigne.
Les choses, je les prends comme elles viennent. Vu que la crise et les coups et les cours d'assises ont attisé les flammes sur beaucoup, nous ont brisé le cou, dis-moi combien tiennent.
We'll be right back. problème de votre radio, c'est quand on écoute, et on est coupé, et on l'entend très mal.
Bah, je sais pas, t'as qu'à acheter un autre poste si ça coupe.
Non, le poste est très bon. C'est vos émetteurs qui le sont pas.
Ah mais non, le poste est pas bon, parce que c'est pas l'émetteur qui doit faire que ton poste comprend, c'est le poste normalement qui doit comprendre.
Ah, écoute, avec certaines autres radios que la vôtre, ça marche très bien.
Bah, ça veut dire que ton poste comprend les autres radios, mais qu'il ne comprend pas celle-ci.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur principeactif.net.
Unaware of time, so we fell. away, away. We feel alive, alive. We can't stop. Youth is not just gay, so we fade.